Voici comment Vladimir Jankélévitch a voulu tirer parti, peu après, dans une série de 1967, de ce qu'on lui demandait de commenter quelques hasardeuses lectures de chevet. Extrait.
L'ORTF vous présente le livre de chevet de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des Sept pendus de Léonid Andreïev.
Sans doute est-il téméraire d'interrompre l'activité d'un philosophe comme Vladimir Jankélévitch pour le questionner au sujet des livres qui pourraient être à proprement parler ses livres de chevet. Vladimir Jankélévitch a reçu un flambeau des mains de l'un des plus grands philosophes du siècle, Henri Bergson, et son œuvre, aussi dense que pathétique, comporte aussi bien des analyses de la mauvaise conscience que des ouvrages sur le mal, qu'un traité des vertus et d'admirables études sur la musique. Plus récemment, et c'est même en cette année 1967, Jankélévitch nous a apporté une extraordinaire méditation sur la mort. Vladimir Jankélévitch, je vais vous poser directement la question. Est-ce que vous avez un ou des livres des chevets ?
Après tout ce que vous venez de dire, je suis un peu embarrassé pour répondre, et confus en même temps. D'abord parce que, en vérité, je n'ai pas vraiment des livres de chevet. Je suis comme beaucoup de professeurs, pour qui la lecture est une occupation professionnelle, une besogne quotidienne, et malheureusement, mes lectures sont souvent des consultations. Je lis les livres dont j'ai besoin pour un ouvrage donné. Enfin, il n'en est pas moins vrai que pour la mort, j'ai vécu dans certaines lectures qui me sont chères, et même dans certaines musiques, car il me vient à l'idée que si je n'ai pas de livres de chevet, par contre, j'ai des musiques de chevet.
Ah bien oui, en effet, là je vois sur votre piano un cahier d'œuvres du compositeur Gabriel Dupont que vous mentionnez d'ailleurs dans votre ouvrage sur la mort. Comment s'intitule la pièce que nous avons eu le plaisir d'entendre dès le début de cette émission ?
La mort rôde. C'est un extrait des ordonnantes. Je crois que je le cite dans mon livre et en effet c'est une musique très poignante, même bouleversante, avec laquelle j'ai beaucoup vécu. Les ordonnantes sont un journal de maladie. Gabriel Dupont, mort je crois tuberculeux à 30 ans, a raconté sa maladie dans ses pages qui sont des prophétiques, qui sont tout à fait la musique d'avant-garde et ont toujours évoqué pour moi en quelque sorte l'ange de la mort qui bat des ailes dans la chambre de l'agonisante. L'ange est entré par la fenêtre ouverte et rôde autour de l'île du Mélisande. Il me semble qu'il y a une parenté profonde entre ces pages saisissantes et le cinquième acte de Pédéas, de Maeterlinck et de Bussy.
Je crois savoir qu'il y a un conte d'Andreïev qui vous a particulièrement frappé dans votre enfance.
C'est vrai, oui. Et finalement, en y réfléchissant avec vous, il me semble que j'ai quand même un livre de chevet. Et c'est non seulement un livre de chevet, mais en même temps un livre qui m'a beaucoup influencé pour ce livre de la mort, et j'en cite même souvent des extraits, j'en ai traduit un petit fragment à la fin du livre. Ce livre, c'est « Le récit des sept pendus » de Leonid Andreïev, grand écrivain très peu connu en France, qui avait connu la persécution, qui est mort en exil, et ces pages sont très bouleversantes. Elles sont liées pour moi à des souvenirs d'enfance. Je me rappelle que ma mère pleurait en les lisant et je me demandais quel était ce livre mystérieux que mes parents lisaient avec tant d'émotion, car Andreïev a beaucoup influencé les générations des Russes entre les deux guerres, aux alentours de la révolution de 1905. Et ces sanglots de ma mère sont restés dans ma mémoire. C'est en effet un livre bouleversant et c'est celui que je veux me permettre de vous présenter, dont je lirai quelques extraits. Le récit des sept pendus est, comme l'indique le titre de ce petit roman, le récit de la marche à la mort de sept condamnés à mort, cinq révolutionnaires et deux condamnés de droit commun. Un gouverneur de l'époque du tsar a été informé par la police qu'un attentat se préparait contre lui. La police a arrêté les révolutionnaires. Les révolutionnaires sont jugés et, naturellement, condamnés à mort. Leonid Andreïev nous présente successivement les cinq révolutionnaires dans des raccourcis saisissants, des portraits magnifiques, et puis les deux condamnés de droit commun, un Estonien nommé Ivan Jansson, qui a assassiné son maître, je crois, et qui est un paysan abruti et presque illettré, et un Tzigane nommé Mishka, qui est un vulgaire bandit, un brigand, et qui vont mourir avec les cinq condamnés à mort. Les cinq condamnés à mort dont nous suivons le procès très brièvement, et ensuite les derniers moments, peu à peu amenuisés par la marche inéluctable à la potence, comme chez Tolstoï, chez Dostoïevski, dans L'Idiot, sont Serge Golovine, Moussia, Werner, Vassili Kachirine et Tania Kovalchuk. Il y a des portraits que je vais vous présenter à la suite d'Andreïev, de ces révolutionnaires. J'aurais dû peut-être dire en débutant que ce récit est dédié à Tolstoï. que le traducteur a un peu oublié. Et c'est important parce que c'est en effet à la mort d'Ivan Ilyitch et à tous les récits sur la mort que Andreïev se rattache le plus. Il avait un culte pour Tolstoï qui ne nous lui rendait pas toujours d'ailleurs. Et je vais vous le lire dans une traduction, une vieille traduction un peu vieillie qui n'est pas mauvaise, de Serge Piersky, qui a besoin d'être complétée, qui est un peu approximative pour le goût d'aujourd'hui, mais qui reste bonne. On sait, on comprend la sublimité, le caractère bouleversant du récit à travers cette traduction. Serge Golovin, le premier accusé, est le plus jeune. L'accusé placé le plus près des juges au procès avait déclaré se nommer Serge Golovin, ancien officier, fils d'un colonel en retraite. Il était tout jeune, large d'épaules et si robuste que ni la prison ni l'attente de la mort certaine n'avaient pu ternir la coloration de ses joues et altérer l'expression de naïveté heureuse de ses yeux bleus. Tant que durèrent les débats, il tourmenta sa barbe blonde en broussaillé dont il n'avait pas encore l'habitude et regarda fixement la fenêtre en fronçant les paupières. On était à la fin de l'hiver, à l'époque où parmi les tourmentes de neige et des journées de froid morne, le printemps proche envoie parfois en précurseur un jour lumineux et tiède, ou même une seule heure, mais si passionnément jeune et étincelante que les moineaux dans la rue deviennent fous de joie et que les hommes semblent enivrés. Une expression de joie naïve parut sur son visage, mais il regarda autour de lui et sa joie s'éteignit comme un tison sur lequel on a posé le pied. Le deuxième condamné s'appelle Moussia. C'est une jeune fille, belle, sans doute, dont on ne sait rien. Elle est une inconnue. Et c'était la deuxième révolutionnaire et qui a joué un rôle très grand dans la confection des bombes, je crois, et dans l'attentat préparé contre le gouverneur. C'est vers le ciel aussi que regardait une jeune fille inconnue, surnommée Moussia. Elle était plus jeune que Golovin, mais semblait être son aînée par sa gravité, le sérieux de ses yeux loyaux et fiers. Seul le cou délicat et les bras minces décelaient ce quelque chose d'insaisissable qui est la jeunesse elle-même et qui résonnait si distinctement dans sa voix pure, harmonieuse, pareille à un instrument de prix et d'un accord parfait dans chaque mot. Moussia était très pâle, de cette blancheur passionnée, particulière à ceux qui brûlent d'un feu intérieur, radieux et puissant. Elle ne remuait presque pas. De temps à autre, seulement, d'un geste à peine visible, elle tâtait au troisième doigt de sa main droite une trace profonde, la trace d'une bague, récemment enlevée. Elle regardait le ciel avec calme et indifférence, simplement parce que tout dans cette salle banale et malpropre lui était hostile, et semblait scruter son regard. Ce coin de ciel bleu était la seule chose pure et vraie qu'elle put regarder avec confiance. Les juges avaient pitié de Serge Golovin et haïssaient Moussia.
Indépendamment des raisons sentimentales que vous avez évoquées, est-ce le thème philosophique de cette œuvre, vraiment très peu connue, de Léonid Andreïev, qui vous a séduit ?
Un thème philosophique, si vous voulez, assurément, est une des raisons pour lesquelles je m'en suis beaucoup servi et je l'ai beaucoup relu. Et le problème métaphysique, si vous voulez, qui y est traité, c'est en somme celui du condamné à mort. C'est l'amenuisement du temps du condamné pour quelqu'un qui n'a plus que quelques instants à vivre. Et en définitive, le premier qui ait traité ce thème, c'est Victor Hugo, dans cet écrit génial et très célèbre, qui est Le dernier jour d'un condamné. D'ailleurs, Dostoïevski, qui a lui-même été un condamné à mort en Sibérie, qui a été celui qui va mourir, qui n'a plus que 8 jours à vivre et plus que 3 jours à vivre, avait lu Victor Hugo. Et les traces de ce récit de Victor Hugo se retrouvent dans l'Idiot et dans certains récits. Par conséquent, ce problème, c'est celui de l'homme qui va mourir. Et il faut dire que Andreïev le traite avec une maîtrise prodigieuse. C'est un livre qui est vraiment saisissant à tous égards, et il étudie sur les 5 condamnés à mort, les 7 même, cet amenuisement du temps, le sablier qui se vide peu à peu, la clepsydre se vide, comme chez Baudelaire, n'est-ce pas ? Bientôt l'heure va sonner, et les réactions de l'angoisse, l'angoisse montante, la marée de l'angoisse. C'est donc ce crescendo qui est étudié dans ce récit. Le voisin de Moussia, immobile aussi, dans une pose un peu affectée, les mains croisées entre les genoux, était un inconnu, surnommé Werner. Si l'on peut verrouiller un visage comme une lourde porte, l'inconnu avait verrouillé le sien comme une porte de fer. Tout ceci, c'est tout à fait Andreïev, la porte de fer, la porte du secret, il en parle ailleurs dans ses écrits. Il fixait obstinément le plancher, et il était impossible de savoir s'il était calme ou profondément ému, s'il pensait à quelque chose ou écoutait les dépositions des agents de police. Il donnait l'impression d'une force immense et calme, d'une vaillance froide et insolente. La politesse même avec laquelle il fournissait des réponses, claires et brèves, semblait dangereuse sur ses lèvres. Si la capote de prisonnier paraissait être un accoutrement ridicule sur le dos des autres personnes, par contre, on ne la voyait même pas sur lui, tant l'habit était étranger à l'homme. bien que Werner n'eût été armé que d'un mauvais revolver, alors que les autres portaient des bombes et des machines infernales, les juges le considéraient comme le chef et le traitaient avec un certain respect. Le quatrième condamné, Kachirine, dont je vais lire le portrait, est celui qui a peur, qui est dévoré par l'angoisse et la peur jusqu'au bout. La terreur insupportable de la mort et le désir désespéré de réprimer cette peur, de la dissimuler au juge, partageait l'âme de son voisin, Vassili Kachirine. Dès le matin, depuis que les prisonniers avaient été conduits au tribunal, il étouffait sous les battements précipités de son cœur. Des gouttes de sueur apparaissaient sans cesse sur son front. Ses mains étaient également moites et froides. Collées au corps, sa chemise humide et glacée gênait ses mouvements. Par un effort de volonté surhumain, il obligeait ses doigts à ne pas trembler, sa voix à être ferme et mesurée, son regard tranquille. Il ne voyait rien autour de lui. Le bruit des voix lui parvenait comme au travers d'un brouillard, et c'est dans un brouillard aussi qu'il se raidissait, dans un effort désespéré pour répondre avec fermeté, à haute voix. Et voici maintenant, je abrège un peu, la cinquième et dernière condamnée parmi les condamnés politiques, qui est Tania Kovalchuk, dont le nom, pour tous ceux qui savent le russe, est le nom d'une Ukrainienne, une petite Russienne, et qui est un des personnages les plus attachants de ces cinq condamnés à mort, Tania Kovalchuk. Consumée par l'inquiétude, Tania Kovalchuk, la cinquième terroriste, couvait ses camarades d'un regard maternel. Elle était encore très jeune. Ses joues semblaient aussi colorées que celles de Serge Golovin, et cependant, elle semblait être la mère de tous les accusés, tant son regard et son sourire étaient pleins d'anxiété tendre, d'amour infini. La marche du procès ne l'intéressait pas. Elle écoutait ses camarades, préoccupée seulement de savoir si leur voix tremblait, s'ils avaient peur, s'il fallait leur donner des soins. Le verdict concernant les cinq terroristes a été prononcé dans sa forme définitive et confirmé le même jour. On n'a pas réuni les condamnés, comme Tania le supposait, dans la même cellule, et on ne leur a pas dit quand aura lieu le supplice. Mais ils ont prévu qu'on les pendra, selon la coutume, cette nuit même, ou la nuit suivante, ou plus tard. Lorsqu'on leur a offert de voir leur famille, le lendemain, ils ont compris que l'exécution était fixée à vendredi, au point du jour. Tania Kovalchuk n'avait pas de proches parents. Elle ne connaissait que quelques parents lointains habitant la petite Russie, lesquels probablement ne savaient rien du procès, ni du verdict. Moussia et Werner, n'ayant pas révélé leur identité, ne tenaient pas à voir les leurs. Seuls Serge Golovin et Vassili Kachirine devaient recevoir leur famille. Tous deux envisageaient avec effroi cette entrevue prochaine. Mais ni l'un ni l'autre n'avait la force de s'y dérober. Serge Golovin attendait cette visite, la mort dans l'âme. Il aimait beaucoup son père et sa mère, qu'il avait vus tout récemment. Et il était plein de terreur à la pensée de les revoir une dernière fois. Le supplice, lui-même, dans toute sa monstruosité, se dessinait plus facilement dans son imagination que ces quelques minutes incompréhensibles, hors du temps, hors de la vie. Que faire? Que dire? Les gestes les plus simples, les plus coutumiers, serrer une main, embrasser, dire « bonjour mon père » lui paraissaient affreux et insensés. Toute la matinée, jusqu'à l'heure où il reçut ses parents, Serge Golovin se promena de long en large dans son cachot, en tourmentant sa barbiche, les traits pitoyablement contractés. Parfois, il s'arrêtait brusquement pour respirer, comme un nageur qui est resté trop longtemps sous l'eau. Mais comme il était bien portant, que sa jeune vie était solidement plantée en lui, même en ces minutes de souffrance atroce, le sang circulait sous sa peau, colorait ses joues et ses yeux bleus conservaient leur éclat habituel. Aborder le chapitre 6 des sept pendus, du récit des sept pendus, intitulé « Les heures s'enfuient », et comme le titre l'indique lui-même, il s'agit du problème philosophique dont j'avais parlé dans, à propos de la première lecture, je veux dire l'usure du temps. Et Andreïev nous parle de la fuite des heures dans la prison silencieuse, marquée seulement par la cloche de la prison. Comme de grosses gouttes de verre transparentes, les heures et les minutes tombaient d'une hauteur incommensurable dans une vasque métallique qui vibrait doucement. Parfois, c'était des oiseaux qui passaient. Dans les cellules, cette sonnerie seule arrivait, jour et nuit. Elle pénétrait au travers des épaisses murailles de pierre. Elle seule rompait le silence. Parfois, on l'oubliait, on ne l'entendait pas. Parfois, on l'attendait avec désespoir. On ne vivait que par le son, et pour le son, car on avait appris à se défier du silence. La prison était réservée aux criminels de marque. Son règlement spécial, rigoureux, était ferme et rude comme l'angle des murailles. Si des choses cruelles peuvent avoir leur noblesse, il y avait de la noblesse dans ce silence solennel et profond où s'engloutit chaque souffle, chaque frôlement. Dans ce silence que traversait le tintement désolé des minutes qui s'enfuient, trois hommes et deux femmes, séparés du monde, attendaient la venue de la nuit, de l'aurore et du supplice, et chacun s'y préparait à sa manière. Voici maintenant quelques extraits du chapitre 7, intitulé « Il n'y a pas de mort ». Il n'y a pas de mort. Et Moussia était heureuse, les bras croisés derrière le dos, revêtue d'une robe de prisonnière, trop grande pour elle, et qui la faisait ressembler à un adolescent affublé d'un costume d'emprunt. Elle allait et venait dans sa cellule, à pas égaux, sans se lasser. La rudesse de l'étoffe irritait la peau du cou blanc et gracile. Il lui semblait qu'en mourant à la potence, elle affichait une prétention de mauvais goût. À la dernière entrevue, elle avait prié son avocat de lui procurer du poison, mais aussitôt elle y avait renoncé. N'allait-on pas penser qu'elle agissait ainsi par peur ou par ostentation ? Au lieu de mourir modestement, inaperçue, ne causerait-elle pas encore du scandale ? Aussi avait-elle ajouté vivement, et puis non, c'est inutile. Maintenant, son unique désir est d'expliquer, de prouver qu'elle n'est pas une héroïne, qu'il n'est pas effroyable de mourir, qu'il ne faut ni la plaindre, ni se tourmenter pour elle. Comme si on l'avait vraiment accusée, Moussia cherche des excuses, des prétextes de nature à exalter son sacrifice et à lui donner une valeur réelle. En effet, se dit-elle, je suis jeune, j'aurais pu vivre longtemps encore. De même que la lueur d'une bougie s'efface dans le rayonnement du soleil levant, la jeunesse et la vie lui paraissent ternes et sombres devant l'auréole magnifique et lumineuse qui va couronner son humble personne. Est-ce possible, se demande Moussia, toute confuse, est-il possible que je mérite qu'on me pleure ? Et une joie indicible l'envahit. Il n'y a plus de doute. Élue, elle est élue entre toutes. Elle a le droit de figurer parmi les héros qui, de tout pays, s'en vont vers le ciel au travers des flammes et des exécutions.
Vladimir Jankélévitch, avant de reprendre la lecture du conte des sept pendus de Léonid Andreïev, je vous rappelle votre exclamation. La peine de mort n'est-elle pas une manière de sacrilège ?
Assurément, je crois qu'on peut le dire, puisqu'elle rend le temps grimaçant et monstrueux. La légende grecque que je rappelle dans mon livre dit que les hommes ont été privés de l'immortalité par la volonté de Zeus, qui les a condamnés à mourir, mais pour que leur supplice ne fût pas infernal, le roi des dieux, en les condamnant à la mort, a bien veillé à ce que la date de la mort leur fût soustraite, de façon qu'ils puissent savoir qu'ils mourront, mais ne puissent pas savoir quand. Ils savent que, mais ils ne savent pas quand. Le que leur est donné, mais pas le quand. Et quand on sait à la fois le que et le quand, quand on sait à la fois que, comme nous le savons tous, et quand, et que nous ne devons pas savoir, la vie devient intolérable. Et c'est justement le caractère infernal de la durée du condamné à mort, de pouvoir ainsi prévoir sa mort d'une manière certaine, d'assister lui-même à l'usure monstrueuse de ce temps, le temps grignoté par la mort certaine. Mors certa, aura certa, c'est ça que l'homme ne peut pas supporter. Voici maintenant le portrait de Serge Golovin, c'est ce jeune homme plein de vie, pour qui n'arrive pas à croire qu'il va mourir. Comment cela est-il possible ? Quel rapport y a-t-il entre moi qui vis et le néant ? Comment puis-je réaliser le non-être ? Il ne peut pas réaliser cette impossibilité monstrueuse, grimaçante du néant. Serge Golovin ne pensait jamais à la mort, chose à ses yeux accessoire et étrangère. Il était comme nous tous, la mort n'est jamais présente. Tout ce que nous voyons nous parle de la vie, mais jamais de la mort. Je continue. Il était robuste, doué de cette sérénité dans la joie de vivre qui fait que toutes les pensées mauvaises ou funestes à la vie disparaissent rapidement et laissent l'organisme indemne. De même que chez lui, les égratignures se cicatrisaient très vite, de même tout ce qui blessait son âme était immédiatement anéanti. Il apportait dans tous ses actes, dans ses plaisirs, et dans la préparation d'un crime, la même gravité heureuse et tranquille. Dans la vie, tout était gai, tout était important, digne d'être bien fait. Et il faisait tout très bien. Il dirigeait admirablement les bateaux à voile, il tirait avec précision, il était fidèle en amitié comme en amour, et avait une confiance inébranlable dans la parole d'honneur. Après l'arrestation, Serge eut un moment de tristesse. Le plan avait été mal combiné. Mais il se dit, Maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut bien faire. C'est de mourir. La peur de la mort se manifesta en lui progressivement, comme par choc. Il lui semblait que quelqu'un lui donnait d'en bas de violents coups de poing au cœur. Puis la sensation disparaissait, pour revenir au bout de quelques heures. Et chaque fois, elle devenait plus intense et plus prolongée. Elle commençait déjà à prendre les contours vagues d'une angoisse insupportable. « Est-il possible que j'aie peur ?» pensa Serge avec étonnement. « Quelle bêtise !» Ce n'était pas lui qui avait peur. C'était son jeune corps robuste, que ni la gymnastique de Muller, ni les douches froides ne parvenaient à tromper. Plus il devenait fort et frais, après les ablutions d'eau froide, plus la sensation de peur éphémère devenait aiguë et insupportable. Et c'était le matin, après le sommeil profond et les exercices physiques, que cette peur atroce, comme étrangère, apparaissait, juste au moment où, naguère, il avait tout particulièrement conscience de sa force et de sa joie de vivre. Il s'en aperçut et se dit « Tu es bête, mon ami, pour que le corps meure plus facilement, il faut l'affaiblir et non pas le fortifier. » Il renonça dès lors à la gymnastique. Et pour expliquer cette volte-face, il cria aux soldats « Frère, la méthode est bonne. C'est seulement pour ceux qu'on va pendre qu'elle ne vaut rien. » En effet, il se sentit comme soulagé. Il essaya aussi de manger moins pour s'affaiblir davantage. Mais malgré le manque d'air et d'exercice, son appétit demeurait excellent. Serge ne pouvait lui résister et manger tout ce qu'on lui apportait. Alors il eut recours à un subterfuge. Avant de se mettre à table, il versa la moitié de sa soupe dans le seau. Et cette méthode lui réussit. Une grande lassitude, un engourdissement vague, s'emparèrent de lui. « Je t'apprendrai, » disait-il en menaçant son corps. Et il caressait tristement ses muscles amollis. Mais bientôt, le corps s'habitua à ce régime. Et la peur de la mort apparut de nouveau. Non plus sous une forme aussi aiguë, mais comme une vague sensation de nausée, encore plus pénible. « C'est parce que cela dure longtemps, » pensa Serge. « Si seulement je pouvais dormir tout le temps, jusqu'à l'exécution. » Il essaya de dormir le plus possible. Il y réussit tout d'abord. Puis l'insomnie survint, accompagnée de pensées obsédantes, et avec celles-ci, le regret de la vie. « Ai-je donc peur d'elle ?» se demandait-il, en pensant à la mort. « C'est la vie que je regrette. » C'est une chose admirable, quoi qu'en disent les pessimistes. Que dirait un pessimiste si on le pendait ? Ah, je regrette la vie, je la regrette beaucoup. Quand il comprit clairement qu'il n'avait plus devant lui que quelques heures d'attente dans le vide, puis la mort, il eut une impression bizarre. Il lui sembla qu'on l'avait mis à nu d'une manière extraordinaire. Non seulement on lui avait enlevé ses habits, mais aussi le soleil, l'air, le bruit et la lumière, la parole et la faculté d'agir. La mort n'était pas encore là, et la vie semblait déjà absente. Il éprouvait une sensation étrange, incompréhensible parfois, et parfois intelligible, mais très subtile et mystérieuse. Qu'est-ce donc ? Et moi, où suis-je donc ? Moi, mais quel moi ? Il s'examina attentivement, avec intérêt, en commençant par ses larges pantoufles de prisonnier, pour s'arrêter au ventre sur lequel pendait l'ample capote. Il se mit à aller et venir dans la cellule, les bras écartés, et continua à se regarder, comme le ferait une femme, essayant une robe trop longue. Il voulut tourner la tête, elle tourna. Et ce qui lui paraissait un peu effrayant, c'était lui, Serge Golovin, qui bientôt ne serait plus. Tout devint étrange. Il essaya de marcher, et il lui sembla bizarre de marcher. Il essaya de s'asseoir, et il fut surpris de pouvoir le faire. Il essaya de boire de l'eau, il lui sembla bizarre de boire, d'avaler, de tenir le gobelet, de voir ses doigts qui tremblaient. Il se mit à tousser et pensa, « Comme c'est curieux, je tousse. Qu'ai-je donc ? Je deviens fou ?» se demanda-t-il. « Il ne manque plus que cela. » Il s'essuya le front, et ce geste lui parut également surprenant. Alors il se figea en une pose immobile, sans respirer, pendant des heures entières, lui semblait-il, éteignant toute pensée, retenant son souffle, évitant tout mouvement, car toute pensée était une folie, tout geste une aberration. Le temps disparut, comme s'il se fût transformé en espace, en un espace transparent et sans air, en une immense place sur laquelle se trouvaient tout, et la terre, et la vie, et les hommes. Et on pouvait embrasser tout d'un seul coup d'œil, jusqu'à l'extrémité, jusqu'au gouffre inconnu, jusqu'à la mort. Ce n'était pas parce qu'il voyait la mort que Serge souffrait, mais parce qu'il voyait la vie et la mort en même temps. Une main sacrilège avait soulevé le rideau qui, de toute éternité, cachait le mystère de la vie et le mystère de la mort. Ils avaient cessé d'être des mystères. mais il n'était pas plus compréhensible que la vérité écrite dans une langue étrangère. Nous allons maintenant lire le sommet, à mon avis, du récit des sept pendus, qui est le chapitre consacré à Werner. Comme un novice jeté en prison pour la première fois, il examina attentivement la cellule, les verrous, la chaise vissée au mur, et il se dit « Pourquoi ai-je une telle sensation de joie, de liberté ?» Oui, de liberté. Je pense à l'exécution de demain, et il me semble qu'elle n'existe pas. Je regarde les murs, et il me semble qu'ils n'existent pas non plus. Et je me sens libre, comme si, au lieu d'être en prison, je venais de sortir d'une autre cellule, où j'aurais été enfermé pendant toute la vie. Les mains de Werner se mirent à trembler. Phénomène inconnu pour lui. La pensée devenait de plus en plus vibrante. Il lui semblait que dans sa tête, des langues de feu s'agitaient et voulaient s'échapper de son cerveau afin d'éclairer le lointain encore obscur. Enfin, les flammes parvinrent à jaillir et l'horizon s'illumina d'une vive clarté. Werner aperçut soudain et la vie et la mort, et il fut stupéfait par la splendeur du prodigieux spectacle. C'était comme s'il cheminait sur la crête d'une haute chaîne de montagne, aussi étroite que le tranchant d'un couteau. D'un côté, il voyait la vie, et de l'autre, la mort. Et la mort et la vie ressemblaient à deux océans étincelants et profonds. Confondus à l'horizon, en une seule étendue illimitée. Qu'est-ce donc? Quel spectacle divin? Dit-il lentement. Il se leva involontairement, se redressa, comme s'il eût été en présence de l'être suprême. Et abolissant les murs, l'espace et le temps, par l'impétuosité d'un regard qui pénétrait toute chose, il regarda largement là-bas, quelque part, dans la profondeur de la vie qu'il quittait. Et la vie prit un aspect nouveau. Il n'essaya plus de traduire en paroles ce qu'il voyait, comme autrefois. D'ailleurs, il ne trouvait pas de mots adéquats dans tout le langage humain, encore si pauvre, si avare. Les choses mesquines, malpropres et mauvaises, qui lui suggéraient du mépris, et même parfois du dégoût, à la vue des hommes, avaient complètement disparu. C'est ainsi que pour ceux qui s'élèvent en ballon, la boue et la saleté des rues étroites sont invisibles, et la laideur se mue en beauté. Ces pages véritablement sublimes doivent beaucoup certainement à Tolstoï, et s'il y a quelqu'un à qui Werner ressemble, je crois que c'est au prince André. Je continue. Werner se mit à sourire, et son attitude perdit sa force altière et imposante. Il redevint le prisonnier qui souffre dans sa cellule étroite, qui s'ennuie de voir constamment un œil curieux le fixer au travers de la porte. Il s'assit, sans que son corps prît la pose raide qui lui était coutumière, et il considéra les murs et les grillages avec un sourire faible et doux qu'il n'avait jamais eu. Et quelque chose se passa, qui ne lui était encore jamais arrivé. Il pleura. « Mes chers camarades » murmura-t-il dans un chuchotement, en versant des larmes amères, « mes chers camarades !» Quelle voie mystérieuse avait-il suivi pour passer du sentiment de liberté illimitée et hautaine à cette pitié passionnée et attendrie? Il ne le savait pas. Avait-il vraiment pitié de ses camarades? Ou bien ses pleurs cachaient-ils quelque chose de plus passionné et de plus grand encore? Son cœur, qui soudain était ressuscité et avait refleuri, l'ignorait. Werner pleurait et chuchotait « Mes chers camarades, mes chers camarades !»
Les années de notre siècle ont beau s'éloigner, elles ne dissipent pas, ou tout au moins elles ne paraissent pas dissiper, l'abominable odeur des massacres nazis ou de la bombe d'Hiroshima. Faut-il, Vladimir Jankélévitch, y déceler une origine de votre contribution si approfondie à l'étude de la mort?
Je ne peux pas dire à proprement parler que mon livre soit né comme un témoignage de ces massacres et de notre époque. Ce livre m'a plutôt été inspiré par mon père, qui était médecin, et qui s'est toujours intéressé au problème de la mort, qui voulait même faire un recueil des écrits de Tolstoï relatifs à la mort. Il projetait de les retraduire et de les réunir. Et puis, comme praticien, il était en contact avec la mort, il voyait des malades, mais par conséquent, il avait toute une métaphysique de la mort. C'est plutôt mes conversations avec lui qu'est né mon livre. Mais naturellement, les choses dont j'étais témoin, les spectacles de notre époque, et surtout l'immense massacre, m'ont évidemment fortifié dans mon dessin. On les mène au supplice, tel est le titre du chapitre dont je commence la lecture. Il commence, comme souvent chez Andreïev, par une description de la nature, enfin de le printemps, la nuit du printemps, qui contraste si étrangement avec le drame affreux qui se joue autour de ces sept condamnés. Lorsqu'on arriva dans la cour, l'obscurité humide et tiède frappa doucement les visages et les yeux, coupa les respirations, s'insinua dans les corps frémissants qu'elle purifia. Il était difficile de croire que ce stimulant était tout simplement le vent, un vent printanier doux et moite. L'étonnante nuit de printemps sentait la neige fondue et faisait résonner les pierres. Vives et affairées, des gouttelettes d'eau tombaient en se poursuivant et leur chute composait avec ensemble une chanson magique. Mais si l'une d'elles tombait plus lente ou plus rapide, tout s'embrouillait en un clapotis joyeux, en une confusion animée. Puis une grosse goutte sévère frappait avec force et, de nouveau, la chanson printanière, rythmée, murmurait. Au-dessus de la ville, plus haut que les murs de la forteresse, on distinguait le pâle halo des lumières électriques. Serge Golovin, c'est un des condamnés, je le rappelle, poussa un profond soupir. Puis il retint son souffle, comme s'il eût regretté de chasser de ses poumons un air si pur et si frais. « Y a-t-il longtemps qu'il fait beau ?» s'informa Werner. « C'est le printemps. »« Depuis hier seulement, » répondit-on avec politesse et empressement. « Il y a eu beaucoup de jours froids. » L'une après l'autre, les noires voitures arrivaient, prenaient deux personnes et s'en allaient, dans l'obscurité, vers le portail où vacillait une lanterne. Autour de chaque véhicule se mouvaient les silhouettes grises des soldats. Les sabots de leurs chevaux résonnaient avec force. Souvent, les bêtes glissaient sur la neige mouillée. Quand Werner se courba pour entrer dans le véhicule, un gendarme lui dit, d'une manière vague, « Il y en a un autre qui va avec vous. » Werner s'étonna. « Qui va où ?»« Ah oui, encore un. Qui est-ce » Le soldat garda le silence. En effet, dans un angle obscur, se pelotonnait quelque chose de petit, d'immobile, mais qui vivait. Un œil ouvert brilla sous un rayon oblique de la lanterne. En s'asseyant, Werner frôla un genou de son pied. « Pardon, camarade. » On ne lui répondit pas. Ce fut seulement quand la voiture se mit en marche que l'homme lui demanda, en hésitant, en mauvais russe, « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Werner, condamné à la pendaison pour attentat contre X. Et vous ? Je suis Jansson. Il ne faut pas me pendre. » Je rappelle que Jansson est le paysan estonien, ce moujik qui a tué son maître, je crois, et qui est un condamné de droit commun, mais qui meurt avec les condamnés politiques qui ont voulu tuer le gouverneur. Avant 2 heures, il serait face à face avec le grand mystère, jusque-là indéchiffré. Avant 2 heures, il sortirait de la vie pour entrer dans la mort. C'est là qu'ils allaient tous les deux, et ils firent connaissance. La vie et la mort marchaient simultanément sur 2 plans, et jusqu'à la fin, jusque dans les détails les plus risibles, les plus stupides, la vie restait la vie. « Qu'avez-vous fait, vous, Jansson ?»« J'ai frappé mon patron avec un couteau. J'ai volé de l'argent. » D'après le son de sa voix, il semblait que Jansson s'endormait. Werner trouva dans l'ombre sa main molle et la serra. Jansson la retira avec indolence. « Tu as peur ?» demanda Werner. « Je ne veux pas être pendu. » Ils gardèrent le silence. Werner trouva de nouveau la main de l'Estonien et la serra fortement entre ses paumes sèches et brûlantes. Elle resta immobile et Jansson n'essaya plus de la dégager. On étouffait dans la voiture trop étroite, qui sentait le renfermé, le drap de soldat, le fumier et le cuir des bottes mouillées. Un jeune gendarme, assis en face de Werner, lui soufflait sans cesse au visage une haleine puant l'ail et le tabac. Mais l'air vif et frais arrivait par les fentes, et l'on sentait la présence du printemps dans la petite boîte mouvante, avec plus de force encore que dehors. Le véhicule tournait, tantôt à droite, tantôt à gauche. Parfois, il semblait retourner en arrière. Par moments, il paraissait aux prisonniers qu'il virait en rond depuis des heures. D'abord, la lumière bleuâtre de l'électricité se glissait entre les rideaux épais, baissés. Puis, soudain, après un tournant, l'obscurité se fit. Ce fut à cet indice que les voyageurs devinèrent qu'ils étaient arrivés dans les faubourgs et s'approchaient de la gare de S. Parfois, à un contour brusque, le genou plié et vivant de Werner frôlait amicalement le genou plié et vivant du gendarme, et il était difficile de croire au supplice prochain. « Où allons-nous ? » demanda soudain Johnson. La trépidation continue et prolongée de la sombre voiture lui donnait le vertige et un peu de nausée. Werner répondit et serra plus fort la main de l'Estonien. Il aurait voulu dire des paroles particulièrement amicales et douces à ce petit homme endormi qu'il aimait déjà plus que personne au monde. « Cher ami, je crois que tu es mal assis. Rapproche-toi de moi. » Johnson garda le silence. Au bout d'un moment, il lui répondit « Merci, je suis bien. Et toi, on te pendra aussi ?»« Oui, » répliqua Werner, avec une gaieté inattendue, en riant presque. Et il eut un geste aisé et dégagé, comme s'ils avaient parlé d'une plaisanterie futile et bête que voulaient leur jouer des gens affectueux, mais terriblement farceurs. « Tu as une femme ?» demanda Johnson. « Une femme ? Moi, non, je suis seul. » « Moi aussi, je suis seul. » Werner commençait à avoir le vertige. Par moments, il lui semblait qu'il se rendait à une fête. Chose bizarre, presque tous ceux qui allaient au supplice avaient la même impression. Bien qu'en proie à la peur et à l'angoisse, ils se réjouissaient vaguement de la chose extraordinaire qui allait se passer. La réalité s'enivrait de folie et la mort, s'accouplant à la vie, engendrait des fantômes. « Nous voilà arrivés, » dit Werner, avec une curiosité joyeuse, lorsque la voiture s'arrêta. Il sauta aisément sur le sol. Il n'en fut pas de même pour Johnson, qui résistait, sans mot dire, très paresseusement, semblait-il, et qui refusait de descendre. Il se retenait, tantôt à un angle, tantôt à la porte, à la haute roue, et cédait à la première intervention du gendarme. Il se collait aux choses plutôt qu'il ne s'y agrippait, et il n'était pas nécessaire de déployer beaucoup d'efforts pour l'en détacher. Enfin, on eut raison de lui. Comme toujours, pendant la nuit, la gare était sombre, déserte et inanimée. Les trains de voyageurs étaient déjà passés. Et pour le train qui attendait les prisonniers sur la voie, il n'y avait pas besoin de lumière ni d'agitation. L'ennui s'empara de Werner. Il n'avait pas peur, il n'était pas angoissé, mais il s'ennuyait d'un ennui immense, lourd, fatigant, qui lui donnait envie de s'en aller n'importe où, de se coucher et de fermer les yeux. Il s'étira et bâilla vivement à plusieurs reprises. « Si seulement on allait plus vite, » dit-il, exténué. Johnson garda le silence et frémit. Lorsque les condamnés passèrent sur le quai désert, entourés de soldats, pour se diriger vers les wagons mal éclairés, Werner se trouva placé à côté de Serge Golovin. Serge Golovin, je le rappelle, est celui qui est plein de vitalité, qui faisait des exercices physiques à la prison. Celui-ci désigna quelque chose de la main et se mit à parler. Son voisin ne comprit distinctement que le mot « lampe ». Le reste de la phrase se perdit dans un bâillement las et prolongé. On entendit du bruit à la porte du wagon. Mishka, le tzigane, entra en crachant. Je rappelle que Mishka est, avec l'Estonien Janssen, l'autre condamné de droit commun, qui va mourir avec les terroristes politiques. Mishka, le tzigane, entra en crachant, en respirant bruyamment, en faisant résonner avec force les talons de ses bottes. Il jeta un regard autour de lui et s'arrêta. Je me permets de sauter quelques pages pour arriver plus vite à la fin de ce voyage dramatique. Le tzigane interroge Werner et les autres condamnés sur les raisons de leur condamnation à mort. « Et toi, on te condamne à cause du ministre ?»« Oui, et toi ?»« Moi, monsieur, » répondit le tzigane, « c'est une autre affaire. Moi, je ne suis pas aussi distingué. Moi, je suis un brigand, un assassin. Ça ne fait rien, monsieur. Serre-toi un peu pour me faire place. Ce n'est pas de ma faute si on m'a mis en votre compagnie. » Dans l'autre monde, il y aura de la place pour tous. Depuis un moment, le tzigane Mishka examinait Moussia à la dérobée. Soudain, il se tourna vivement et fixa sur elle son regard droit et perçant. « Mademoiselle, hé, mademoiselle, qu'avez-vous donc ? Vos joues sont toutes roses et vous riez. Regarde, elle rit vraiment. Regarde, regarde !» Et il saisit le genou de Werner de ses doigts crochus. Rougissante, un peu confuse, Moussia planta ses yeux dans les yeux attentifs et sauvages qui la questionnaient. Tous gardèrent le silence. Les petits wagons bondissaient sur la voie étroite et couraient avec empressement. N'était-il pas atroce de penser qu'on apportait tant de soins, d'efforts, en un mot toute l'activité humaine, à conduire des hommes à la pendaison ? La chose au monde la plus insensée s'accomplissait sous un aspect simple et très raisonnable. Les wagons couraient, des gens y étaient assis, comme d'habitude, voyageaient, comme on voyage généralement. Puis il y aurait un arrêt, comme toujours, 5 minutes d'arrêt. Et alors vient à la mort, l'éternité. Le grand mystère. Le dernier chapitre, le chapitre 12, décrit les condamnés arrivant sur les lieux de l'exécution. Soudain, le tzigane se tourna, pencha son visage tout près de celui de Werner et le regardant dans le blanc des yeux, chuchota. « Monsieur, si on attaquait les soldats du convoi, qu'en pensez-vous ? » ?»« Non, » répondit Werner. « Pourquoi ? Il vaut mieux finir en combattant. Je donnerai un coup, on me donnera un autre, et je mourrai sans m'en apercevoir. »« Non, il ne faut pas, » dit Werner. Tout à coup, les wagons s'entrechoquèrent et ralentirent leur marche. Les condamnés se levèrent, mais se rassirent aussitôt. « Nous sommes arrivés, » dit Serge. Subitement, ce fut comme si l'on avait pompé tout l'air de la voiture. Il devint difficile de respirer. Les cœurs dilatés, pesés dans la poitrine, montés vers la gorge, battaient désespérément, et le sang, dans sa terreur, semblait se révolter. Les yeux regardaient le plancher trépidant, les oreilles écoutaient les roues, qui roulaient toujours plus lentement, roulaient encore, puis s'arrêtaient doucement. Le train stoppa. Une étrange torpeur envahit les condamnés. Ils ne souffraient pas. Ils semblaient vivre d'une vie inconsciente. Leur être sensible était absent. Seul son fantôme se mouvait, parlait sans voix, marchait en silence. On sortit. On se rangea par deux en aspirant l'air frais de la forêt. Comme dans un rêve, Janson se débattait gauchement. On l'arracha du wagon. « Nous irons à pied ?» demanda quelqu'un presque gaiement. « Ce n'est pas loin, » répondit une voix insouciante. Sans rien dire, on avançait dans la forêt. Le long d'un chemin boueux et humide. Les pieds glissaient, s'enfonçaient dans la neige, et les mains s'accrochaient parfois involontairement à celles des camarades. Respirant avec peine, les soldats marchaient en file de chaque côté des condamnés. Une voix irritée prononça « Ne pouvait-on tracer le chemin ? On a peine à avancer. »« On a bien nettoyé, votre noblesse, mais c'est le dégel, il n'y a rien à faire. » Chez les condamnés, la conscience revenait mais partielle. Tantôt la pensée semblait affirmer « C'est vrai ! On ne pouvait pas nettoyer le chemin. Tantôt elle s'obscurcissait de nouveau, et il ne restait que l'odorat, qui percevait avec une acuité singulière la senteur forte et saine de la forêt. Tantôt encore, tout devenait très clair, très compréhensible, et la forêt, et la nuit, et le chemin, et la certitude que tout à l'heure, dans une minute, la mort implacable les saisirait. Et petit à petit, un chuchotement s'élevait. Il est 4 heures bientôt. Je l'ai dit, nous sommes partis trop tôt. Il fait jour à 5 heures. C'est cela, à 5 heures, il fallait donc attendre. On s'arrêta dans la clairière obscure. Près de là, derrière les arbres, dont l'ombre immense s'agitait sur le sol, se balançaient silencieusement 2 lanternes. C'est là qu'étaient dressées les potences. « J'ai perdu un de mes caoutchoucs, » dit Serge. « Eh bien, » demanda Werner sans comprendre, « je l'ai perdu, j'ai froid. Où est Vassili ?»« Je ne sais pas, le voilà. » Sombre et immobile, Vassili se tenait tout près d'eux. « Où est Moussia ?»« Me voici. » « C'est toi, Werner ?» On se regardait. On évitait de se tourner du côté où, silencieuse et terriblement expressive, se balançaient les lanternes. À gauche, la forêt clairsemée semblait s'éclaircir encore. Et au-delà, c'était de vastes plaines grises d'où venait un vent humide. « C'est la mer !» dit Serge en humant les souffles. « C'est la mer !» Moussia répondit par les vers de la chanson « Mon amour, vaste comme la mer !»« Que dis-tu, Moussia ?» Les rives de la vie ne peuvent contenir mon amour vaste comme la mer. Mon amour vaste comme la mer, répéta pensivement Serge. Mon amour vaste comme la mer, reprit Werner. Et soudain il s'étonna. Moussia, ma petite Moussia, que tu es encore jeune. À ce moment, tout près de l'oreille de Werner, retentit la voix haletante et passionnée du tzigane. Monsieur, regardez la forêt. Qu'est-ce que tout cela? Et là, les lanternes, est-ce le gibet? Werner le regarda. Les traits convulsés de l'homme étaient effrayants à voir. « Il faut nous dire adieu, » murmura Tania. « Attends, on va lire le jugement. Où est Janson ?» Janson restait étendu dans la neige. Des gens l'entouraient. Une violente odeur d'éther se répandait autour d'eux. « Eh bien, docteur, est-ce bientôt fini ?» demandait quelqu'un avec impatience. « Ce n'est rien, une syncope. Frottez-lui les oreilles avec de la neige. Ça va déjà mieux. Vous pouvez lire ?» La lumière d'une lanterne sourde se répandit sur le papier et des mains blanches dégantées. Le papier et les mains tremblaient, la voix aussi. « Messieurs, peut-être vaut-il mieux ne pas lire. Vous connaissez tous le jugement. »« Ne lisez pas, » répondit pour tout le monde Werner. Et la lumière disparut aussitôt. « Messieurs, marchez 2 par 2. Vous pouvez choisir votre compagnon, mais je vous prie d'accélérer le pas. » Werner désigna Janson, qui était debout, soutenu par 2 soldats. « J'irai avec lui. Serge, prends Vassili. Passez devant nous. C'est bien. Je vais avec toi, Moussia, » dit Tania. « Viens, embrassons-nous. » Tous s'embrassèrent rapidement. On se remit en marche. Tout était tranquille. Les lanternes derrière les arbres devinrent immobiles. Ah, mon Dieu, râla quelqu'un. On se retourna. C'était le tzigane qui, dans un effort désespéré, criait « On va nous pendre ». Il s'agitait, battant l'air de ses mains, et cria encore « Dieu, est-ce que je serais pendu tout seul ?» De ses mains convulsives, il s'agrippa à la main de Werner et continua « Monsieur, mon cher, mon bon monsieur, tu viendras avec moi, veux-tu ? » Werner, le visage crispé par la douleur, lui répondit « Je ne puis, je suis avec Janson. » « Ah, mon Dieu, alors je serai seul. Pourquoi ? Pourquoi ?» Moussia fit un pas vers lui et murmura « J'irai avec vous. » Le tzigane recula et la fixa de ses grands yeux dilatés. « Avec toi ? Oui. Mais tu es si petite. Tu n'as pas peur de moi ? Je ne veux pas, j'irai seul. » « Non, je n'ai pas peur de vous. » Le tzigane découvrit ses dents. « Tu ne sais pas que je suis un brigand, et tu veux bien de moi ? Réfléchis. Je ne serai pas fâché si tu refuses. » Moussia se tut, et dans l'aube blanchissante, son visage sembla d'une pâleur lumineuse et presque mystique. Le tour de Moussia et du tzigane arriva. La femme marchait avec précaution, d'un pas glissé. La soutenant d'une main forte et tâtant le terrain de son pied, l'homme l'accompagnait à la mort. Les lumières s'immobilisèrent. Autour de Tania, tout redevint tranquille et solitaire. Les soldats, gris dans la lueur blafarde de l'aube, se taisaient. « Je reste seul, » dit Tania, et elle soupira. « Serge est mort, Werner et Vassili sont morts, et Moussia meurt, je suis seul. Soldats, mes petits soldats, vous voyez, je suis seul, seul. » Le soleil se leva au-dessus de la mer. On plaça les cadavres dans des coffres et l'on se remit en route. Le cou allongé, les yeux exorbités, leur langue bleue sortant des bouches, les suppliciaient, refaisaient le chemin par lequel, vivants, ils étaient venus. Et la neige était douce, et l'air de la forêt était pur et embaumé. Le caoutchouc perdu par Serge faisait une tache noire dans la blancheur du chemin. C'est ainsi que les hommes saluaient le soleil levant.